Voici le journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric et bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce samedi, 7 tentatives d'incendie du domicile privé du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, dans le Finistère. Une tentative qui mobilise toute la classe politique. Dans l'actualité aujourd'hui également, un nouveau samedi de mobilisation pour les Gilets jaunes. Il s'agit du 13e samedi consécutif depuis fin novembre. Jour J pour le début des vacances d'hiver, c'est l'Académie B qui ouvre le bal. Le palmarès des victoires de la musique, Jeanne Haddad et les frères Big Flio et Oli. Dans la lumière, Alain Bachung dans l'histoire, Jeanne Haddad, artiste France Inter, qui sera à 8h20 votre invité, Eric Delvaux.
Oui, Jeanne Haddad, artiste féminine de l'année, doublement récompensée hier soir, également pour son disque Radiette, album rock de l'année.
Enfin, à 8h10, le journal des sports sera présenté ce matin par Fabrice Rigobert.
France Inter.
Et tout d'abord donc cette tentative d'incendie d'origine criminelle, semble-t-il, au domicile privé du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, à Motreff, dans le Finistère. Tentative qui a eu lieu hier, alors que les gendarmes ont découvert sur place une couverture, des résidus de pneumatiques et une torche artisanale, imbibée de carburant, des éléments accréditant ainsi la thèse de l'origine criminelle. Un incendie qui intervient dans un contexte délicat, alors que la classe politique, dans son ensemble, dénonce un acte odieux et une dérive haineuse et violente. Je vous propose d'écouter la réaction du député et porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, Saïd Ahamada.
On a atteint là un stade qui me semble extrêmement critique. Extrêmement critique. C'est-à-dire qu'on s'est habitué là depuis plusieurs semaines à ce que des élus soient menacés jusque dans leur domicile. Tous les éléments convergent pour dire qu'on est dans un climat qui est fabriqué entre guillemets par ceux qui veulent faire tomber la République. Nous, en tant qu'élus, qu'on soit de la majorité de l'opposition, notre responsabilité, c'est d'appeler au calme, d'appeler à la responsabilité, d'appeler à ce que tout cela cesse de manière immédiate, à ce que l'on n'ait pas à subir ce type de menaces, qui sont des menaces non pas à l'encontre d'un homme, mais de la République, ça il faut bien entendre. C'est-à-dire que ceux qui aujourd'hui pourraient se complaire ou en tout cas se satisfaire de ce qui s'est passé aujourd'hui ne sont pas des républicains.
Des propos recueillis par Augustin Rivé. Richard Ferrand, qui assistait hier à Rennes aux côtés du Premier ministre à la signature du pacte d'accessibilité et du contrat d'action publique pour la région Bretagne.
Et même si rien ne permet pour le moment de faire un rapprochement entre cet incendie et les dégradations de plusieurs domiciles et de permanence d'élus de la majorité présidentielle depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, eh bien nous allons maintenant nous intéresser à ce nouveau samedi de mobilisation.
Oui, le 13e samedi consécutif de mobilisation, très exactement depuis fin novembre. Alors, si l'on ne sait pas encore quelle sera l'importance de cette mobilisation, si les chiffres vont une fois encore être en baisse, on sait en revanche que de nombreuses actions sont d'ores et déjà prévues un peu partout en France et que par ailleurs, les leaders du mouvement vont une fois encore manifester en ordre dispersé. Béatrice Duguay.
Ils ne seront ni à Bordeaux ni à Toulouse, place forte des mobilisations depuis plus d'un mois maintenant. Priscilla Ludowski annonce une manifestation à Château-Thierry dans l'Aisne à partir de 10h. Parcours déclaré, péage d'autoroute certainement neutralisé. Maxime Nicole, lui, surfe sur les tensions franco-italiennes de la semaine. Il participe en fin de matinée au rassemblement des Gilets jaunes à la frontière, à Vintimille, sachant qu'une caravane de soutien arrivera d'Italie à l'initiative d'un petit parti anti-européen. Éric Drouet, qui a défilé déjà mardi dans Paris avec la CGT, lance un rendez-vous sur les Champs-Élysées à 11h pour mettre le cap ensuite vers la sensible place Beauvau, siège du ministère de l'Intérieur. Mot d'ordre du jour, la destitution de Christophe Castaner. Autre manifestation, déclarée celle-là, elle cible l'Assemblée nationale, le MEDEF, puis le Champ de Mars. Mobilisation annoncée aussi à Lyon, Rouen, Nantes, Lorient, Brest ou La Roche-sur-Yon, à Marseille en début d'après-midi, départ habituel du Vieux-Port, à Montpellier aussi, contre la loi anti-casseurs. Les manifestants vont venir avec des cagoules, des foulards, des écharpes ou des masques.
À noter enfin que l'incendiaire présumé de l'immeuble parisien, incendie qui a fait 10 morts et 96 blessés, a été mis en examen dans la soirée et placé en détention provisoire. Cette quadragénaire habitant cet immeuble du 16e arrondissement de Paris, de nombreux soins internés en hôpital psychiatrique qui avait été interpellé en état d'ébriété dans la nuit de lundi à mardi, peu après justement le départ de l'incendie.
Au Venezuela, le président autoproclamé Juan Guaido brandit la menace militaire.
Bénéficiant du soutien d'une quarantaine de pays, dont celui des États-Unis, Juan Guaido n'écarte pas en effet la possibilité d'une intervention militaire américaine, alors que Nicolas Maduro refuse, lui, de quitter le pouvoir. Washington, Grégory Phillips.
Dans son discours sur l'état de l'Union mardi, Donald Trump avait dit qu'il ferait tout pour soutenir le peuple du Venezuela dans sa quête de liberté. Deux jours plus tôt, interrogé sur une éventuelle intervention des États-Unis à Caracas, il avait affirmé que toutes les options étaient sur la table, y compris militaires. Cette fois, c'est donc Juan Guaido lui-même qui semble envisager cette possibilité. Dans un entretien accordé à l'agence France Presse, l'opposant numéro 1, Nicolas Maduro, dit que pour sauver des vies humaines, les Vénézuéliens feront tout ce qui est nécessaire, tout en gardant leur souveraineté, mais à demi-mot, ils semblent prêts à autoriser cette intervention militaire étrangère. Pendant ce temps-là, les États-Unis continuent d'acheminer de l'aide humanitaire à la frontière, les camions sont bloqués en Colombie et Maduro dénonce une mise en scène de la part des Américains. Le chef de l'État sortant refuse de laisser entrer cette aide dans le pays, jugeant que ce serait un prélude à l'arrivée des militaires US. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Donald Trump a pour sa part annoncé cette nuit que sa rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un se tiendra à Hanoï, au Vietnam. Ce deuxième sommet entre les deux hommes aura lieu les 27 et 28 février prochains. Et puis en Tunisie, cette fois-ci, la justice a condamné cette nuit encore 7 des accusés des attentats du Bardo et de Sousse à la prison à vie. Attentat qui avait eu lieu en 2015, attentat qui avait fait 30 morts à Sousse dans un hôtel et 22 morts au musée du Bardo à Tunis, parmi lesquels 4 Français.
En France, c'est aujourd'hui que débutent les vacances d'hiver et c'est la zone B qui ouvre le bal.
La zone B, autrement dit Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy, Metz, Strasbourg, sans oublier Reims, Rouen, Nantes et Rennes. Alors, certes, tout le monde ne peut pas partir à la neige qui est abondante en ce moment ou au soleil, mais nous serions quand même 20% à pouvoir le faire, Philippe Lefebvre.
Effectivement, 20% des Français vont partir pour les vacances d'hiver et cela représente 3% de plus que l'année dernière. Et selon une étude Opinionway, le budget vacances d'hiver devrait également être revu à la hausse à 1 116 € en moyenne par ménage, c'est-à-dire 188 € de plus que l'année dernière. Côté destination, 29% des vacanciers partiront dans les stations de sport d'hiver françaises, majoritairement dans les Alpes. Pour les professionnels de la montagne, c'est d'ailleurs une période stratégique qui peut représenter jusqu'à 70% du chiffre d'affaires de la saison. Et du côté de la SNCF, on s'est préparé au Grand Rush vers l'Heure Blanc, avec par exemple 61 trains supplémentaires pour la seule vallée de la Tarentaise. D'autre part, 30% des vacanciers de février rechercheront le soleil et les trois destinations qui dominent largement, selon le syndicat des tours opérateurs, sont la République dominicaine, les Canaries et le Maroc. Enfin, le dernier tiers des vacanciers de février aura recours à ce que l'on appelle l'hébergement non marchand, en clair, des vacances gratuites chez des amis ou dans la famille.
La passion et le rêve en ce moment au salon Rétromobile, Porte de Versailles à Paris. La passion pour ces voitures et ces motos de collection du siècle dernier, mais pas seulement. Ainsi, un énorme camion, un Berlier Tessan, le plus gros camion existant et dont il ne reste plus que 2 exemplaires au monde, attire tous les regards et les objectifs au milieu du pavillon 1. Un camion venu de Lyon et qui a suscité curiosité et passion, selon François Melsion, l'ancien patron de Rétromobile.
On a dans le hall le Berlier Tessan, qui est le plus gros camion au monde, et on a sur notre site internet, on avait donné l'itinéraire que le convoi allait emprunter, puisque c'est un convoi exceptionnel. Le camion faisant 5 mètres de large, il est complètement hors code, donc il a fallu fermer des routes, fermer des villages. Ça, il a mis 4 jours pour venir de Lyon. Et on avait mis l'itinéraire en ligne, et le chauffeur du camion nous a dit tout le long de la route, j'avais des gens qui me regardaient, et le soir, quand j'arrivais, c'était pratiquement comme une étape du Tour de France. Donc en fait, les gens étaient venus voir ce camion. Et alors ça, si c'est pas de la passion, il faudra qu'on m'explique ce que c'est.
À noter également qu'une Alfa Romeo 8C de 1939, vendue aux enchères par la maison Arcurial dans l'enceinte de Rétromobile, a été adjugée hier à plus de 16 millions d'euros pour le compte d'un collectionneur américain. Rétromobile, c'est jusqu'à demain soir. Les victoires de la musique, ça, c'était hier soir à Boulogne-Billancourt, alors que beaucoup attendaient Eddie Depreto et Christine and the Queens. Ce sont finalement les Toulousains, Big Flo et Oli côté masculin et Jeanne Haddad côté féminin qui se sont imposés dans la catégorie artiste de l'année. À noter un 13e trophée à caractère posthume pour l'album En Amont d'Alain Bachoun. Jeanne Haddad, artiste France Inter que vous pouvez entendre en ce moment et qui sera dans quelques instants à 8h20 votre invité, Eric Delvaux.
Oui, Jeanne Haddad que l'on recevra avec plaisir de 8h20 jusqu'à 8h40. C'était le journal de Serge Martin.